بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شفيع الإسلام نرمسي الله عز وجل qui nous donne la possibilité de nous réunir pour étudier une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un hadith en rapport avec la conviction en Allah azza wa jal, la confiance en Allah azza wa jal. On avait eu l'occasion d'introduire ces deux thèmes dans Riyad al-Salihin. On avait expliqué que l'auteur a, on va dire qu'il a mis un certain nombre de hadiths, il a énuméré un certain nombre de hadiths sous le chapitre al-yaqin wa tawakkul. Et si on essayait de traduire littéralement ces deux termes, al-yaqin, c'est la conviction et la certitude. Quand on dit qu'une personne a yaqin en Allah, c'est qu'il a la certitude et la conviction en Allah azza wa jal. At-tawakkul, ça peut paraître, c'est la confiance en Allah, ça peut paraître être un synonyme de yaqin, mais si on va un peu plus, si on creuse un peu plus, si on va vers les termes un peu plus techniques, on se rend compte qu'en finalité, la confiance en Allah Azza wa Jal, c'est le résultat d'un travail qu'on fait sur soi régulièrement pour travailler, pour faire progresser la conviction et la certitude en Allah Azza wa Jal. Donc l'auteur il rappelle que At-tawakkul thamaratum min thamaratil yaqin. La confiance en Allah, c'est l'aboutissement d'un travail qu'on fait sur soi au quotidien, à travers des situations d'épreuve, à travers des événements de la vie. Ça peut être également à travers l'accomplissement des bonnes actions, à travers l'attente des promesses d'Allah Azza wa Jal, même si on ne voit pas forcément ces promesses se concrétiser immédiatement. Nous sommes tous conscients, nous avons tous entendu des hadiths qui parlent de l'importance des 5 salats et que d'autres hadiths qui parlent de l'importance de justement la conviction en Allah Azza wa Jal et que celui qui place sa confiance en Allah, qui reste dans le halal, dans le licite, ben Allah Azza wa Jal lui accorde sa subsistance d'une façon dont il n'imagine même pas. Alors imaginez que je suis cette personne qui essaie de travailler de façon licite et je fais de mon mieux pour rester dans le droit chemin en respectant les heures de la salat. Je contrôle mon regard, je contrôle mes paroles. J'essaie de rester iltizam. Je reste ferme sur le droit chemin avec cet espoir qu'Allah m'accorde profusion et bénédiction dans mes revenus. Et que malgré ça, je me rends compte que, Allah musta'an, je ne trouve pas cette baraka, cette bénédiction. Alors là aussi, il y a un travail de yaqin, de certitude en Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas uniquement face aux épreuves, c'est également par rapport aux promesses d'Allah. On sait que celui qui reste dans le halal, qui travaille de façon licite, il y aura baraka de ses biens. Mais tu te rends compte que ton voisin, lui, Wallahu musta'an, il travaille de façon, parfois, qui sort des limites de la charia. Il va emprunter de l'argent avec une banque, il va utiliser de l'intérêt ou parfois il va peut-être tromper les personnes. Bref, des méthodes qui sont contraires à l'éthique du moumine, du croyant. Et on perçoit, on constate que la personne vit mieux. Plus de revenus, un niveau de vie supérieur aux nôtres. Et là aussi, un travail de confiance en Allah. Même si on ne voit pas le résultat de la promesse d'Allah immédiatement, on doit travailler. Ça, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. Ce n'est pas pour rien si on dit que la finalité, l'aboutissement, le résultat, et le terme qui est utilisé par le mu'allif, al-thamara, le fruit de cette certitude, de cette conviction qu'on va travailler au quotidien, c'est qu'Allah Rabbul Izzat te donne cette qualité que tu arrives à t'en remettre à Allah, à avoir une confiance totale en Allah Azza wa Jal, qu'Allah nous accorde cette qualité. Mais ce n'est pas quelque chose de simple. Ça se travaille, comme les ibadas, ça se travaille. Une personne qui veut par exemple, c'est un exemple, hein, avoir la concentration, le khushu' de la salah. Le khushu' de la salah, ça c'est l'aboutissement d'un effort. C'est pas tu fais du'a ya Allah, j'aimerais être dévoué, concentré dans la salah, et puis tu commences ta prière immédiatement. Après, il y a des gens, mashallah, le du'a a été accepté, ils atteignent un niveau spirituel, ça c'est dans les mains d'Allah. Je veux dire que cet aboutissement, le khushu', la concentration, la dévotion dans la salah, c'est le résultat d'un travail qu'on va faire au quotidien, dans nos prières, être à l'heure.
précéder les salawats par les rawatib, les sunnah, les sunnahs qu'on fait avant les salats, être à la masjid en état d'ablution très tôt, être au premier rang, et ainsi de suite. Il y a toute une préparation de la prière, lire le Coran un peu avant la prière, essayer de travailler le sens des versets, augmenter sa connaissance, son ilm sur le Coran, sur le tafsir, sur la traduction, de telle façon, et faire le dhikr abondamment. Parce qu'un homme, une personne dont le cœur est permanence en train de penser à Allah Azza wa Jal, qui ne laisse pas un instant de la journée dans le rafla de l'insouciance, il pense à Allah Azza wa Jal, que ce soit le tasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, istighfar, salatu ala nabi, les salutations sur le prophète sallam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, un cœur qui pense à Allah régulièrement. Mais quand il se positionne devant Allah, et on sait que lorsque le croyant commence sa prière, il y a un échange, une conversation entre lui et Allah Azza wa Jal lorsqu'il récite la sourate Al-Fatiha. Et donc, si une personne se prépare régulièrement et se prépare spirituellement, ben, l'aboutissement, c'est le khushu', la dévotion qui va prendre place dans la salah. Et plus sa personne fait preuve d'estiqama, de fermeté dans ses bonnes œuvres qui lui permettent de se préparer spirituellement tous les jours pour l'accomplissement de la salah, on peut dire que la prière, c'est le grand oral du mu'min. C'est le grand oral du musulman où il est devant Allah Azza wa Jal, et c'est là qu'on va voir l'intérieur de son cœur. C'est là qu'on va voir sa véritable relation avec Allah Azza wa Jal. L'amour pour Allah Azza wa Jal se manifeste à travers la salah. La crainte d'Allah Azza wa Jal se voit également dans la salah. Donc on va dire que le khushu', la dévotion, c'est thamara, c'est le fruit d'un travail au quotidien qu'on va faire sur notre cœur, sur le contrôle de la pensée, du cœur, et ainsi de suite. Ben, on va dire pareil, at-tawakkul, la confiance en Allah, c'est a'mal al-qulub, c'est une action du cœur, c'est une des actions les plus importantes qu'on cite, qu'on demande à Allah Azza wa Jal, et qu'on atteste de la prière, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, être capable de s'en remettre à Allah Azza wa Jal dans toutes les situations. Mais cela n'est pas donné à tout le monde. Et le mu'allif, l'auteur, va citer 5 versets. Je crois qu'un des versets de Sourate Al-Ahzab, on avait eu l'occasion d'aborder, il va citer 5 exemples où il y a, on va dire, des études de cas, une situation difficile, la réaction du croyant et la réaction de l'hypocrite ou celui qui a une faiblesse dans la foi et qui n'arrive pas donc à s'en remettre à Allah Azza wa Jalla. Donc le mu'allif, l'auteur, dans l'introduction de ce chapitre, insiste que c'est le résultat d'efforts qu'on doit faire au quotidien. Comme on s'efforce de produire des actions qui nous permettront d'avoir la concentration de la salah, de la concentration de les doua, ben de la même façon, on doit travailler cela à travers les événements de la vie de tous les jours, parfois les épreuves, et même à travers les promesses d'Allah Azza wa Jal. Et dans le Coran, Allah Rabbul Izzah nous rappelle « وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ » C'est un verset simple, un verset que peut-être on mémorise, mais son sens est azim. C'est un sens exceptionnel, extraordinaire. Celui qui place sa confiance en Allah. C'est-à-dire que celui qui développe une confiance, mais quand on dit « Allah »« Ey, Allahi wahda » une confiance en Allah, l'unique, uniquement en Allah, Azza wa Jal, « Fahuwa hasbu » Allah lui suffit amplement. On arrive à un état spirituel où l'homme, où ce mu'min, n'a besoin de personne. Il n'a besoin d'aucune créature. Il sait s'en remettre à Allah Azza wa Jal, et de cette façon, l'homme va acquérir cette précieuse liberté intérieure. Cette liberté qui te détache des hommes. Ce que le prophète alayhi salatu wassalam avait enseigné à Ibn Abbas radiallahu anhuma, sache que si l'humanité se réunissait pour te faire du mal. Et aujourd'hui, on a très souvent, on a peur que les gens nous fasse du mal. On a peur du mal que les gens peuvent nous causer. Récemment, c'est Ibn Abbas, sache que si la Oumma se réunissait, et voyez comment est-ce que le Prophète utilise des termes très forts, si l'humanité, l'Oumma, ils se réunissent tous pour te causer du tort, ils ne te feront rien de plus que ce qu'Allah t'a déjà prédestiné. C'est-à-dire, aie confiance en Allah et ne regarde pas les gens qui sont autour. Et donc, celui qui arrive à ce degré de foi, il a une telle confiance en Allah qu'Allah le suffit. Même si les gens sont contre lui, il a dans son cœur la présence d'Allah, son cœur est relié à Allah Azza wa Jal, et il trouve une sakina, une tranquillité. Et il dit, Voilà donc deux degrés. Al-yaqin wa al-tawakkul yahsul lil-insan maqsuduhu fi dunya wa al-akhirah. Celui qui arrive à ce niveau spirituel où il a une conviction en Allah Azza wa Jal qui l'amène vers une confiance totale, où il arrive à s'en remettre à Allah. Et dans les termes fayar al-ghaib alladhi akhbar Allah anhu wa rasuluhu ka'annahu hadir bayna yaday. Tout ce qu'Allah a révélé de le Coran, tout ce que le prophète alayhi salatu wa salam a annoncé dans les hadiths, ce sont des choses que tu ne peux pas voir de tes yeux, que tu ne peux pas entendre de tes oreilles, que tu ne peux pas palper avec tes mains. Mais la personne a une telle croyance, une telle conviction sur ces textes que c'est exactement comme s'il les voyait. Et cette force de foi lui permet de rester dans le droit chemin. Quand une personne réalise les bénéfices spirituels qu'il va avoir en contrôlant son regard, en maîtrisant son nafs, parce qu'il croit aux promesses d'Allah Azza wa Jal, même s'il y a des shahawat, même s'il y a des appels via les péchés qui se multiplient d'une intensité qu'aucun homme, on peut penser, aucun homme ne peut résister, mais il a une telle conviction dans les textes qu'Allah a révélés et que le prophète alayhi salatu wa sallam a expliqué, qu'il peut faire l'impasse sur tout ce qui l'entoure et rester dans le droit chemin. Et là, ça rejoint un ensemble de textes quand le prophète alayhi salatu wa sallam nous rappelle que si vous restez accroché à deux choses, vous ne serez jamais égaré. Le Coran et la Sunna, c'est-à-dire que même dans les époques de fitna, une personne peut habiter dans les endroits où il y a les pieds des péchés qui gravitent autour de lui, qui l'invitent, qui le font presque succomber, il se raccroche au wahyain, à la révélation d'Allah Azza wa Jal et aux paroles du prophète alayhi salatu wa sallam, cette personne est préservée et protégée des fitnas. C'est ce qui fait également que notre dîn, c'est une religion qui sera pratiquée jusqu'au qiyam, jusqu'à la fin des temps. Même à l'époque de la plus grande des fitnas. Quelle est la plus grande des fitnas de ce dunya? Ad-Dajjal, nas'alullah al-afiyah, l'antéchrist. Même à l'époque de Dajjal, le mu'min se préserve par la lecture de la sourate Al-Kahf. C'est-à-dire que le prophète alayhi salat, ça on sent un peu du sujet, il explique quels sont les miracles que Dajjal va accomplir. Dajjal vient voir une personne, il va ressusciter ses parents qui sont décédés. Shay'un azim, ibtila, tes parents qui sont morts, ils sortent de la tombe. Il te dit, mon fils, crois à cette personne, c'est lui ton Dieu. Et là, il faut une force de foi. Là, il faut at-tawakkul wal-yaqin en Allah, qui te permet de faire fi de tout ce que tu vois, de tout ce que tu entends. Ça appelle une qualité intrinsèque au croyant, propre au croyant. Alladhina yu'minuna bil ghaib, croire en l'invisible. Il y a cette lutte entre l'invisible, ta confiance en Allah, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer, ça. Et tout ce qui est en toi qui t'appelle vers le haram ou vers le mal ou vers le batil, être capable de faire passer ta confiance en Allah, ton amour d'Allah, ta crainte d'Allah au-dessus de tout ça. Ça produit un mu'mine qui a une foi qui est ferme. Et cette foi, ce iman qui a trouvé sa place dans ce cœur, lui permet l'accomplissement des bonnes œuvres, l'éloignement du haram et la patience, al-sabr, anil bala, face à toutes les situations de la vie, pour rester dans le surat al-mustaqim jusqu'à la rencontre avec Rabbul Alamin. Qu'Allah nous accorde cette qualité. Ce sont les enseignements que le prophète alayhi salatu wassalam avait donné à Ibn Abbas radiyallahu anhu, cet enfant. On avait beaucoup, bidnillah, par le hadith, cet enfant qui était sur la montagne du prophète, et le prophète va lui expliquer des choses, mais d'une simplicité. C'est un discours pour un enfant. C'est un discours qui peut être compris d'un enfant, donc d'un adulte, mimbab aoula, encore mieux, nous on comprend. Et c'est un discours qui forme un cœur qui est alal fitra, qui est sur l'inéité, un cœur innocent. Un cœur qui n'a jamais été habité par des passions, par des péchés, ou n'importe quel sentiment même, ou l'envie de choses négatives ou haram. C'est un cœur qui va se former sur ses bases. Crains Allah. Allah sera avec toi. Place ta confiance en Allah. Respecte la religion d'Allah. Tajidhu tujahak. Allah Rabbul Izzah sera avec toi. Quand tu as besoin de quelque chose, demande Allah Azza wa Jal. Tu as besoin de l'aide, adresse-toi à Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, ces phrases, que cet enseignement prophétique à l'attention de cet enfant a pour but de former un iman solide, les bases de la foi. Et celui qui grandit avec les bases ou qui arrive à un jour à développer les bases de la foi, quelle que soit la situation qu'il va vivre, il va s'en sortir bi-idhnillah. Et ce n'est pas donné à tout le monde, parce qu'une personne peut développer des a'mal dhahira, des actions extérieures. Qu'est-ce qu'on appelle les actions extérieures? Assiduité aux prières, lecture du Coran, peut-être même mémorisation du Coran, peut-être même connaissance religieuse et signe extérieur de piété. Signe extérieur de piété, mais le fond, l'intérieur n'est pas formé. Comme les sahaba, ils ont eu cette formation pendant 13 années à Makkah al-Mukarrama. Travailler la foi en Allah, la conviction yaqin. Mais dans les situations d'épreuve, des situations extrêmes, cette personne risque de ne pas trouver, de ne pas prendre les bonnes décisions qu'Allah nous protège. Le Mu'allif, rahimahullah, il cite un premier exemple. Surat al-Ahzab, a'udhu billahi minash shaytan ar-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim, wa lamma ra'a al-mu'minun al-ahzab. On avait expliqué rapidement, brièvement, la bataille des coalisés, une des situations les plus éprouvantes pour les mu'mines. Qu'on s'est appelé la bataille des coalisés, la bataille du fossé également, ou Al-Khandaq. Il y a quatre noms, et en français, le fossé. Les Quraysh vont s'unir avec d'autres tribus bédouins, polythéistes, et ils vont faire un accord pour attaquer les mu'mines et pour les encercler. Et ils vont même persuader une des tribus, qui n'était pas musulmane, Amadine al-Munawwara, avec qui les musulmans avaient un accord, un pacte de non-agression, de trahir ce pacte et d'attaquer les musulmans de l'intérieur. Donc une situation d'épreuve extrême, où on n'est pas en danger, ni à l'extérieur, ni à l'intérieur, où on craint pour sa propre personne, et le prophète alayhi salatu wassalam te demande d'aller au front, de protéger les frontières, et tu as peur pour ta femme et tes enfants. Ça, c'est une situation très délicate. À Badr, c'était différent. À Uhud, c'était différent. Parce que l'ennemi est sur un terrain, on va dire, en guillemets, neutre. Ils sont dans la vallée, à Uhud, près de la montagne, ou à Badr. Ils ne sont pas dans la ville. Mais là, l'ennemi est autour et l'ennemi est en train de faire un travail à l'intérieur. C'est-à-dire, tu es en sécurité nulle part. Et là, c'est une grande situation d'épreuve. Et juste avant, donc, durant ces, quand les croyants, les mu'mines creusaient donc les fossés, le prophète alayhi salatu wassalam avait eu cette vision de la part d'Allah Azza wa Jal qu'un jour il arrivera jusqu'au royaume de Péas, de Kisra et de Qaisar et de César. Une annonce, une bichara, une bonne nouvelle annoncée aux mu'mines qu'un jour la vérité ira jusqu'à là-bas et jusqu'à ces terres lointaines et qui représentaient les deux plus grandes puissances à cette époque. Rome, les Romains, et Faris, les Perses, jusqu'à ces contrées lointaines dont tout le monde avait peur, ben, Kalimatul Haq, la vérité arrivera jusqu'au cœur de ces personnes. Et donc les Sahaba, lorsqu'ils avaient entendu cette bonne nouvelle, ils étaient contents. Mais ils ont cette bonne nouvelle, et voilà l'épreuve. Il y a d'un côté Al-Ghaib. Le Prophète annonce quelque chose qu'ils ne peuvent pas palper, ils ne peuvent pas visualiser. Mais ce qu'ils voient en face, ça va à l'encontre de ce rêve. Ils sont en train de perdre d'une certaine façon. Ils voient l'ennemi en train de progresser, s'installer, et eux, leurs provisions vont s'épuiser, ils auront bientôt plus d'eau, ils sont en danger, comme on a dit, de l'extérieur, ils ne peuvent plus sortir, ils sont également en danger à l'intérieur. Dans cette situation d'épreuve extrême, notre Seigneur nous informe comment était la réaction des mu'mines et des hypocrites. On ne parle pas des koufars, on parle de soit des hypocrites, ou alors des personnes qui avaient une foi qui n'était pas suffisamment formé. Allah seul le sait si nous n'avons pas, Allah musta'an, nous si notre foi elle est formée correctement ou non. Wala ma ra'a al-mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu. Verset 22 de la sourate Al-Ahzab. Et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent: voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager disaient là la vérité. Et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Et ça, c'est Ajil et Mufassirin, rahimahumullah, disent, voyez la confiance en Allah. Ça, c'est un exemple concret de la conviction et de la certitude qu'ils avaient en Allah, azzawajal, ce qui leur permet d'avoir une confiance, une tawakkul totale en Allah. Ils peuvent faire abstraction de ce qu'ils voient, l'armée qui avance, qui prend position, qui peut-être gagne du terrain, et la promesse que le prophète a fait qu'un jour ce dîn arrivera à tel endroit. C'est-à-dire, il y a la nusra d'Allah derrière cette situation, n'ayez aucune crainte, oh mes sahaba. Et donc les mu'minines, les sahaba, ils ont dit ça c'est la promesse d'Allah, et ils sont restés fermes, ils n'ont jamais eu peur, ils n'ont jamais douté. Et dans le verset 10, Allah Azza wa Jal décrit l'angoisse. وَإِذْ زَغَتِ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Dans le verset 10, quand ils vous vinrent d'en haut et d'en bas, c'est-à-dire de toutes parts, c'est-à-dire les ennemis, et que les regards étaient troublés. Pourquoi les regards sont troublés? Parce qu'ils voient l'ennemi venir de partout. Et les cœurs remontés aux gorges. Ça, c'est une métaphore, une expression en arabe. C'est-à-dire un tel degré d'angoisse. Parfois, ça nous arrive qu'on est angoissé d'avoir, on dit, on a une boule de la gorge. Hein? Mais là, c'était pire que ça. C'est comme si que le cœur remonté à la gorge, on n'arrive pas à respirer, on est oppressé, tellement on sent la peur qui s'installe. Et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. Bien sûr, cela ne concernait pas les sahabas. Cela concernait ceux qui avaient une foi qui n'était pas assez formée. Ils se sont mis à douter. Est-ce que, en finalité, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a promis, est-ce que cela va se concrétiser ou alors on va tous mourir et que cette promesse n'était pas véridique? Donc, première réaction, celle des croyants, confiance en Allah, certitude, ils ont dit que ça c'est la vérité, et que cela a augmenté leur confiance et leur iman. Et ça c'est thamara, at-tawakkul, la confiance en Allah, son résultat c'est ziyadatul iman, la foi augmente. Et le mu'min reste encore plus ferme sur sa position. Un mu'min ne tremble jamais, un mu'min ne doute jamais, un mu'min a la conviction qu'il appartient à Allah. Il est sous la protection d'Allah Azza wa Jal et Allah ne l'abandonne jamais. Et que même si il vit une situation difficile qu'il n'avait pas prévue, qu'il n'avait pas anticipée malgré les précautions qu'il avait prises, cela émane de la volonté d'Allah Azza wa Jal. Et que dans la volonté d'Allah, il y a un bien et un khair. Et ça, ça te permet de développer une autre qualité, c'est pas le sujet, mais ar-ridha, la satisfaction totale. Le fait d'être satisfait de toutes les décisions d'Allah, Azza wa Jal. J'avais écouté une vidéo, mashallah, en arabe, qui était tout simplement magnifique, où un cheikh expliquait comment est-ce que Ibn Qayyim, rahimahullah, avait parlé de Martaba al-Rida, qu'on arrive à un degré spirituel, mais ça se travaille, où un croyant, dans n'importe quelle situation de sa vie, il doit être satisfait du décret d'Allah, Azza wa Jal. Tu es en bonne santé, tu remercies Allah, Azza wa Jal. Tu es malade, tu es satisfait de ce qu'Allah a décrété comme maladie. Allah t'a accordé des enfants, tu es satisfait. Allah ne t'a pas accordé d'enfants, tu es satisfait de la décision d'Allah, parce que cela émane du Khaliq, du Créateur, du Raziq, celui qui pourvoit, qui donne. Et il donne à qui il veut, comme il veut, et cela dépend d'Allah Azza wa Jal. Tu es en bonne santé, tu remercies Allah, tu as des problèmes de santé, tes enfants sont malades, tu vis des situations d'épreuve, pauvreté, richesse, quelles que soient les situations, tu t'en remets à Allah Azza wa Jal. Il avait cité les différents anbiya alayhi salat, ça serait trop long de citer, mais tout simplement, le prophète alayhi salat wa salam, voyez les situations qu'il a vécues à Uhud, voyez les situations qu'il a vécues à Taif, pas besoin d'expliquer en détail, on sait comment est-ce que le prophète a été maltraité, il a été insulté, il a été persécuté, il a été atteint physiquement, c'est une de ses dents s'est cassée, le sang coulait de la tempe du prophète alayhi salat wa salam. Le prophète alayhi salat wa salam à Taif a été tellement frappé qu'il y avait du sang qui collait à ses pieds, à ses chaussures alayhi salat wa salam. Jamais le prophète alayhi salat wa salam n'a remis en cause cette situation ou n'a douté de la décision d'Allah, ou jamais le prophète alayhi salat wa salam n'a éprouvé un quelconque sentiment d'insatisfaction. Ar-ridha. Et c'était le cas de tous les prophètes. C'est-à-dire, on doit être capable parfois de relire l'histoire des prophètes, même des histoires qu'on connaît, relire l'histoire des prophètes avec cette nouvelle objectif de voir comment est-ce qu'ils étaient satisfaits des décrets d'Allah. Chaque prophète a connu des épreuves. Il n'y a pas eu un prophète qui n'a pas vécu des épreuves du début de sa mission jusqu'à sa mort. Et jamais un prophète ne s'est plaint à Allah Azza wa Jal. Ayyub alayhi salam, combien il était malade? 18 ans. Jamais il ne s'est plaint à Allah Azza wa Jal de sa maladie, et personne jusqu'à la fin des temps ne souffrira d'une maladie pire que celle de Ayyub alayhi salam. Parce que les personnes les plus éprouvées, c'était les prophètes alayhi salatu wassalam, et ils ont toujours été satisfaits de la décision d'Allah, alors que leur vie était une vie de difficulté, une vie d'épreuve. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de al-hadith wal-ifk, lorsque certains hypocrites ont ont essayé de porter atteinte à l'honneur de Aïcha radiallahu anha en l'accusant de toutes sortes de choses. Et cela avait affecté le prophète alayhi salatu wassalam quand le prophète avait été atteint de sorcellerie, quand le prophète était malade, dans toutes ces situations, quand il a été empoisonné. C'était des situations extrêmement difficiles. Jamais un prophète n'a connu autant d'épreuves dans une vie que An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans toutes ces situations, il s'en remettait à Allah azza wa jal. Ça, c'est vraiment un martaba, c'est un degré où on est content, on est satisfait d'Allah. Et l'auteur, celui qui a fait cette vidéo, il explique que toi aussi, ô mu'min, analyse ta vie et sois satisfait de ce qu'Allah a décrété. Quelle que soit la situation que tu vis, aujourd'hui, demain, situation qui te plaît, qui ne te plaît pas, qui est prévisible, qui n'était pas prévisible, qui va à l'encontre de tout ce que tu avais prévu, qui te démoralise, tu t'en remets à Allah. Sois satisfait. Ya Allah, c'est toi qui as envoyé la situation. Ya Allah, je suis satisfait de ta décision. Ça apporte une tranquillité du cœur. C'est la tranquillité qu'on obtient dans la relation avec Allah, la relation intime avec Allah. Pas uniquement la relation extérieure, dans les prières, dans la zakat, non. Dans la relation intime où ton cœur est lié à Allah Azza wa Jal, Allah te donne une sakina, une tranquillité, un apaisement, qu'Allah nous accorde cette qualité. Il y avait cité l'exemple d'un couple, donc contemporain, un exemple de personnes qui sont encore vivantes, un vieil homme qui habitait avec sa femme, il avait plus de 80 ans, il vivait dans une maison, il dit « Wallah Moustahan, on est entré dans cette maison, il n'y avait aucun... » Il n'y avait rien qui pouvait attirer une personne pour rester ne serait-ce qu'un instant dans la maison. Pauvreté. Il a dit que c'était des gens qui étaient réguliers de leur a'mal, qiyam, lail, tahajjud, al-adhkar, et leur cœur était satisfait. Il a dit que par opposition, on a côtoyé des personnes, des gens qui avaient des fortunes, des jets privés, des avions, des. Wallah, c'était plein de bienfaits, mais intérieurement, ils n'avaient pas cette tranquillité, cet apaisement. Donc le bonheur intérieur, ce n'est pas en relation avec le matériel, ça en est l'occasion maintes et maintes fois d'expliquer, c'est dans la relation que tu vas créer avec ton Seigneur. Et la réaction maintenant des hypocrites et de ceux qui n'avaient pas une foi solide assez formée, les munafiqs, ils disent « les munafiquna ». وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Et ce qui nous inquiète, c'est que ce n'était pas là uniquement la réaction des hypocrites. Parce qu'on peut se dire que nous, on n'est pas hypocrites. Inch'Allah, on n'est pas hypocrites. Mais c'est également وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Et quand les hypocrites et ceux qui ont la maladie au cœur. C'est quoi la maladie au cœur? C'est un problème que le cardiologue va régler. C'est un problème de foi, de iman. Parce que le iman, c'est dans le cœur. C'est le doute. Douter de la décision d'Allah. Ne pas être persuadé de la grandeur d'Allah, c'est cru comme mot. Mais quelqu'un qui doute des situations qu'il vit, qui n'arrive pas à faire confiance en Allah, c'est qu'il n'a pas compris la grandeur d'Allah et la puissance d'Allah, et la sagesse d'Allah, et la clémence d'Allah dans toutes ses décisions. Et donc ces personnes-là, « وَيَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ » Qu'est-ce qu'ils ont osé dire ?« نَعُوذُ بِاللَّهِ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا » Allah et son messager ne nous ont promis que tromperie. Ils ne voulaient plus croire. Le prophète nous dit qu'on va arriver jusqu'à tel endroit. On ne peut même plus quitter Médine. On va peut-être être massacré à l'extérieur et nos familles à l'intérieur. Ba'fut tawakkul. Manque de confiance. Et la conséquence, c'est ash-shak, le doute. Et quand le doute s'installe, Shaitan, il a vu une faille, une brèche. C'est comme si qu'il y a un mur, il y a une brèche. Il y a de l'eau qui essaie d'entrer. L'eau va s'infiltrer jusqu'à agrandir la brèche, jusqu'à détruire ce mur. Quand Shaitan a vu un doute, ben là immédiatement il va essayer de percer, il va essayer d'entrer. Ça c'était les personnes qui avaient cette maladie spirituelle, le doute, le fait de ne pas avoir suffisamment confiance en Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est ضعف التوكل, manque de confiance, ça crée le doute, ça permet à Shaitan de s'installer. Et dans la situation d'épreuve où des croyants augmentent leur foi, leur iman, ces personnes-là, ils faiblissent et ils s'éloignent d'Allah, Azza wa Jal, qu'Allah nous protège de cette situation. On peut se demander, imaginez qu'on était là, à Al-Madinah, avec le prophète, alayhi salatu wassalam, dans quel groupe on se serait situé. Il est trop simple de dire que non, moi je serai avec les mu'mines, ceux qui ont confiance en Allah. Personne ne peut dire. Une fois, il y avait un tabi'in, fils de sahaba, qui n'avait pas vu donc le prophète alayhi salatu wassalam. Il avait dit à, je ne sais plus si c'était à Hudhaifa, ou me semble, à Hudhaifa à vérifier, il avait dit, mais la version est authentique, il avait dit que si j'étais là avec vous, si Allah m'avait donné vie à votre époque, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'aurais été quelqu'un de brave, de valeureux. J'aurais fait telle et telle chose. Sahaba dit, ne pense pas une seconde que tu aurais eu ce niveau. Parce que personne ne connaît réellement les limites de sa foi tant qu'il n'est pas exposé au danger. C'est-à-dire que nous, on était avec le prophète, alayhi salatu wassalam, on a vécu des situations d'épreuves extrêmes. Quand on dit extrême, c'est que c'est la limite humaine. Mais ces sahaba ont réussi. Il n'y a pas un qui a douté, parce que c'était les gens qui ont été choisis par Allah Azza wa Jalla. Donc il dit que toi tu es venu après, c'est qu'Allah ne t'a pas choisi pour être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ne pense pas une seconde que tu aurais dépassé les sahaba ou tu aurais pu égaler ceux qui ont été élus, qui ont été choisis par Allah Azza wa Jalla. Pour ça également, parenthèse, que le prophète m'a dit que si vous entendez parler de Dajjal, n'allez jamais le voir, car un homme se croit mu'min, il se croit musulman, il est persuadé qu'il a la foi. Et lorsqu'il se trouve face à l'antéchrist, il voit des choses tellement impressionnantes qu'il finit par perdre la foi et suivre cet homme et l'accepter comme son Dieu et l'adorer. Nas'alullah as-salamata wa al-afiyah. Qu'Allah nous protège des situations d'épreuve. Qu'Allah nous protège des situations où notre iman est éprouvé parce que on vit, on va dire, dans un petit cocon. On est dans un monde ultra protégé, alhamdoulilah, on a l'accès au masajid, on peut faire nos salats, nos enfants vont à la madrasa. Ce sont là des bienfaits de la part d'Allah Azza wa Jalla. Prenez cette personne, mettez cette personne dans un contexte plus compliqué. Mettez-le en métropole, pas besoin d'aller très loin. Métropole, dans les quartiers où il n'y a pas de mosquée, il n'y a pas de madrasa, il n'y a aucun suivi. Il n'y a pas un endroit où tu peux faire du jumu'a, il faut prendre le métro, une heure trente. Est-ce que cette personne reste fait? Il n'y a pas peut-être un restaurant halal où il peut réellement manger en toute confiance. Comment la personne vit sa foi? Est-ce qu'elle reste ferme ou elle va se laisser aller? Situation d'épreuve. Qu'Allah nous protège des situations d'épreuve et qu'Allah nous accorde cette qualité qui est la certitude et la conviction en Allah qui nous permet d'atteindre ce haut degré qui est at-tawakkul, la confiance totale en Allah Azza wa Jalla. On va s'arrêter là aujourd'hui, Inch'Allah. Et la prochaine fois, on va voir un autre verset dans la sourate Ali Imran en rapport avec la bataille de Uhud, où là aussi, il y a une situation d'épreuve extrême après la bataille de Uhud, où les mu'minines, les croyants vont faire preuve de confiance en Allah et vont obtenir la récompense. On verra ça, Inch'Allah. Wa ma tawfiq illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoun.